Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. On commence avec quelques infos. 80 personnes, 8 associations et une poignée d'élus se sont retrouvés sur le rond-point de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac hier après-midi. Ils souhaitaient rendre hommage aux morts anonymes, autrement dit les victimes des nuisances sonores. Ils se basent sur une étude des effets du bruit des aéronefs, sur la santé, qui note une augmentation d'un tiers des risques de mourir d'un infarctus ou d'hypertension pour les personnes exposées au bruit des avions. Ces associations demandent une baisse du trafic pour revenir au taux de 2019, mais aussi l'arrêt des vols de nuit entre 22h et 6h du matin. Autre mobilisation, une fois n'est pas coutume, ce sont les personnels de direction de l'éducation nationale qui ont manifesté hier. Un rassemblement avait lieu à Bordeaux à l'appel d'une intersyndicale UNSA, FO et CFDT. 150 personnes, toutes opposées au retour des groupes de niveau que Gabriel Attal entend imposer dans les établissements dès la rentrée prochaine. Il s'agit d'une vision de l'école passéiste pour l'UNSA qui s'ajoute à des moyens insuffisants selon FO, Force Ouvrière. Sur le sujet, une réunion a d'ailleurs lieu aujourd'hui avec la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, et le Premier ministre. Éducation toujours à Lormont, les profs CGT, FSU et FO des écoles ont manifesté devant la mairie hier midi pour réclamer le passage à la semaine de 4 jours. La mairie, elle, souhaite conserver les 4 jours et demi car bénéfique à l'enfant, selon elle, alors que la moitié de la population de Lormont relève de la politique de la ville. C'est ce qu'indique le maire au quotidien Sud-Ouest. On peut lire et on vous invite à lire également dans Sud-Ouest le compte-rendu du procès au prud'homme qui a eu lieu hier à Pau. Comment il y a 7 ans, la vie de Manon, alors âgée de 21 ans, a basculé. Elle a basculé dans un McDonald's à Oloron, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un McDo détenu par la SAS Lord. Lors du nettoyage du restaurant, un produit dangereusement corrosif coule sur son pied droit. Manon est alors brûlée au 3e degré et sa jambe doit finalement être amputée. Pardon. En première instance, la société a été condamnée à 15 000 euros d'amende pour blessure involontaire et travail dissimulé. 15 000 euros d'amende seulement pour une personne qui a perdu sa jambe. La directrice d'établissement a, elle, eu 3 mois de prison avec sursis. La cour devra rendre son délibéré le 6 juin prochain. Le collectif contre les abus policiers, lui, poursuit son mois d'action pour ses 15 ans avec 2 événements importants ce week-end. D'abord, Myriam Eckert, membre emblématique du collectif, sera jugée demain, vendredi, au tribunal de Bordeaux pour outrage et délit de fuite pour des faits qui se seraient produits le 22 septembre dernier. C'était pendant la visite du roi d'Angleterre à Bordeaux. Myriam conteste ces faits et elle a, elle, déposé plainte contre la police pour faux et usage de faux. Il y a un appel donc à la soutenir demain à 14h au tribunal. Et puis ce samedi 16 mars, c'est la date de la marche annuelle, la marche internationale même contre les violences d'État et le racisme systémique, organisée par le réseau d'entraide Vérité et Justice qui regroupe les familles de victimes tuées par la police, des mutilés gilets jaunes, des victimes et des collectifs anti-répression. Le rassemblement donc samedi, ce sera à 14h, 14h place de la Bourse. Et puis on termine ce journal pour vous annoncer le début ce soir du festival Bordeaux Rock. C'est la 20e édition avec 7 concerts dans différents lieux de la ville situés entre les Capus et le cours d'Alsace-Lorraine. Vous retrouvez la programmation sur le web. Midi 14 sur la Clé des Ondes, on parle maintenant des 41e rencontres du cinéma latino-américain. Ces rencontres, elles commencent mercredi prochain, donc le 20 mars, du 20 au 26 mars, au cinéma Jean Eustache de Pessac, avec cette thématique cette année, les déplacements et migrations. Pour en parler, on est au téléphone avec Gloria Vergès. Bonjour Gloria.
Bonjour, bonjour Baptiste, bonjour la Clé des Ondes.
Tu es coprésidente de France-Amérique Latine 33. Alors, les rencontres du cinéma latino-américain, c'est un rendez-vous qui est habituel, je dis 41e édition, toujours à cette période-là de l'année. Un rendez-vous qui nous permet de voir des beaux films et de parler ou de faire parler de l'Amérique latine, de l'actualité de ces régions, de l'évolution des sociétés, des mouvements sociaux également. J'en profite pour rappeler qu'il y a l'émission Onda Latino-Americana sur notre antenne chaque samedi de 14h à 17h et en particulier sa revue de presse La Voz de América Latina aux alentours de 15h. Je le disais, la thématique cette année, c'est déplacement et migration. Gloria, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix, ce focus-là?
En fait, on a décidé de la thématique l'an dernier, vers le mois de... après les rencontres de l'an dernier, vers le mois de mai à peu près. Et c'est un thème qu'on n'avait jamais traité sur l'Amérique latine. Or, le continent américain... je dis le continent américain, tout le continent américain, est quand même un continent qui a une histoire de déplacement et de migration assez exemplaire, assez paradigmatique. Et le continent latino-américain encore plus, je trouve, avec l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'espace Caraïbe, et puis une partie de l'Amérique du Nord avec le Mexique. Et donc, ça fait longtemps qu'on voulait parler de cette thématique, de la thématique de la mobilité, de la migration, du déplacement, notamment du déplacement forcé. Et donc, on a choisi des lignes d'observation, des lignes de découverte un petit peu particulières. C'est-à-dire que on va pas passer les films habituels et traditionnels de l'émigration vers les États-Unis, par exemple. Mmh. On s'est intéressé aux causes, parce que quand les gens migrent, ou bien quand ils sont exilés, ou bien quand ils sont déplacés, il y a toujours des causes. Et ces causes, il faut aller chercher dans le contexte bien politique, géopolitique, le contexte économique, social, géostratégique, des fois même. Et donc, on s'est intéressé à ces causes, parce que les gens... l'immense minorité qui part pour des raisons personnelles, c'est vraiment une immense minorité. La plupart des gens qui se déplacent, qui vont vivre ailleurs, ils y vont parce qu'ils y sont forcés, pour différentes raisons.
Alors justement, dans la présentation du programme, vous dites entre 1880 et 1940, l'Europe déverse des millions de pauvres vers l'Amérique latine, 4 millions depuis l'Italie, 2,5 millions depuis l'Espagne, les bourgeoisies garantissant ainsi leurs privilèges de classe. Donc en gros, on se débarrasse des pauvres, c'est ça, et on les envoie dans ce nouveau continent.
Absolument. Oui, oui, ça a été une politique, ça c'est tout à fait... étudié par les historiens, hein. C'est l'Europe s'est débarrassée, les bourgeoisies européennes, il y avait un accroissement de la population très importante en Europe, et la société et les services pour la société pour les gens ne suivaient pas, et donc la bourgeoisie s'est débarrassée de ces gens pour pouvoir continuer à garder ses privilèges et son niveau de vie, et donc ça a été vraiment très important.
Une autre époque, c'est les exilés politiques de la guerre civile espagnole qui, là aussi, se déplacent vers l'Amérique latine au milieu du siècle. Et puis, dans les années 70, l'instauration de dictatures dans presque tous les pays qui, à l'inverse, créent une émigration politique massive vers les pays occidentaux, cette fois.
Absolument.
Tu peux en dire un petit peu.
C'est comme ça qu'on a vu. Voilà, oui, c'est comme ça qu'on a vu arriver bien les Argentins, les Chiliens, tout ça, c'est les années 70, hein, puisque les dictatures, c'est 73 au Chili et quelques mois avant, 73 en Uruguay, qu'on oublie souvent d'ailleurs, après 74 Argentine, mais avant, il y avait eu le Brésil. Il y avait au Venezuela à l'époque un gouvernement, un régime très répressif. Et donc, on a vu aussi arriver des Vénézuéliens depuis quelque temps à l'époque. Et après, on a eu les exilés d'Amérique centrale, bien sûr. Et puis, on a un pays en Amérique latine qui est vraiment exemplaire du point de vue de la migration, de l'exil et des déplacements forcés, qui est la Colombie. Mmh. C'est quand même le pays qui a le plus de personnes hors de son pays. Ça représente à peu près plus de 15%. On a à peu près 9,5 millions de Colombiens à l'étranger. Et c'est une migration qui a commencé dans les années 50 avec ce qu'on a appelé l'époque de la violence, où les deux parties les plus importantes se sont fait la guerre. Et donc, il y a eu des déplacements de population. Et puis après, avec la guerre qu'on a connue dans les années 70, avec les narcotrafiquants, les paramilitaires et jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en Colombie, on a encore des acteurs armés, comme sont les paramilitaires et puis quelques groupes armés aussi, qui sont toujours en place et en ce qui concerne les paramilitaires surtout, qui contrôlent des territoires. Donc, par exemple, cette année, on a plus de 30 000 depuis le mois de janvier. Il y a plus de 30 000 personnes qui ont quitté la Colombie parce qu'elles étaient en danger.
Donc c'est vrai, à la fois un continent qui a été l'objet de migration vers ce continent pendant une époque, et puis aujourd'hui plutôt l'inverse quoi, de départ. Là aussi, dans la présentation, vous dites que vous vous êtes penché sur ces questions en essayant d'explorer les endroits les moins confortables, les moins évidents, les moins univoques et les plus aptes à réveiller un débat quelque peu endormi et recroquevillé sur soi, un peu partout en Europe et en France en particulier. Qu'est-ce que vous voulez dire derrière tout ça? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher, Gloria?
Eh bien, parce qu'en fait, quand on parle de la migration, on parle toujours des mêmes choses. On dit, oh là là, les immigrés, quand ils arrivent ici, combien ça coûte, ça met en danger des choses. Voilà, on a des préjugés, d'ailleurs, qui sont, la plupart du temps, qui sont faux. Lorsque des gens viennent travailler dans un pays, je dirais, dans un pays occidental, dans un pays développé, ils apportent plus au pays qu'ils ne gagnent eux-mêmes. On voit, par exemple, l'immigration qu'il y a eu dans les années après la mort de Franco, l'immigration qu'il y a eu de gens qui venaient d'Afrique du Nord et d'Afrique et des pays arabes qui se sont installés, qui sont venus travailler dans le sud de l'Espagne, c'est eux qui ont développé l'économie espagnole. C'était en Espagne, à un moment, si on enlevait tous les gens qui arrivaient, tous les Africains et tous les gens d'Afrique du Nord, plus tous les Latino-Américains qu'il y avait en Espagne, il n'y a plus rien à manger. C'est-à-dire que c'est eux qui travaillent dans... On pourrait dire la même chose des femmes latino-américaines qui travaillent dans des métiers du soin, et du soin à la personne, voilà. Et donc, en fait, on a souvent des fausses idées sur la migration. Par exemple, ce qu'on ne sait pas, c'est que pour l'Amérique latine, mais c'est pas que pour l'Amérique latine, pour d'autres pays, c'est pareil. La majorité des migrations qui se font en Amérique latine se font à l'intérieur du sous-continent. C'est de l'ordre de 60%. C'est-à-dire 60% des gens qui migrent, ils migrent à l'intérieur du sous-continent.
Est-ce que cette histoire-là complexe fait aussi que en Amérique latine, on a une manière d'appréhender, de discuter de ces questions-là qui est radicalement, en tout cas, différente de celle qu'on a en France, Gloria?
Oui, tout à fait. Parce que il y a des pays qui travaillent sur ces problèmes de déplacement et de migration, par exemple la Colombie, qui ont mis en place un centre national de la mémoire historique où ils travaillent justement pour collecter collecter des témoignages de tous les gens qui ont été déplacés, qui des fois ont été déplacés à plusieurs reprises, qui ont pu être déplacés par le narcotrafic, puis qui ont été déplacés par des grands projets. Parce que ce qu'il faut avoir en tête aussi quand on parle de migration, c'est que les déplacements de population, c'est un enjeu économique de premier ordre. Ça rapporte énormément de milliards et de milliards et de milliards de dollars dans le monde. Ça répond aussi, il y a des mafias qui ont pignon sur rue et qui se chargent de faire payer les gens qui veulent passer, qui veulent se déplacer. Donc en fait, il y a un enjeu économique énorme. Et ensuite, on est dans un monde globalisé avec des enjeux économiques, des enjeux de territoire. L'Amérique latine est un territoire où il y a énormément de ressources, pas que des ressources minières, des ressources en eau, des ressources en faune, en flore. Et donc tout ça, ça répond à des intérêts qui sont, je dirais, mondiaux, avec des mafias et avec des mafias organisées mondialement. Et donc souvent, ça, on ne le voit pas. On ne voit pas tout ça.
Alors, on en vient au cinéma et à ce festival. Vous dites que vous voulez montrer des objets cinématographiques intéressants, innovants et inédits. Moi, j'ai trouvé, en parcourant rapidement les films, qu'il y avait peut-être un côté rafraîchissant, alors qui, je pense, est à l'œuvre depuis plusieurs années déjà dans la programmation, avec beaucoup de jeunes cinéastes, des femmes, des personnes issues des minorités et un peu moins de non-connus. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire, Gloria?
Oui, c'est un peu volontaire. Bien sûr, on a aussi des noms qui sont connus. Hein. On va passer des gens qui sont un peu connus. Mais c'est vrai que notre programmation, étant donné que les gens qui sont connus, qui font des films avec les instituts du cinéma en Amérique latine, je veux dire, ils trouvent leur public parce que ce sont des films qui sont distribués en France et donc ils sont distribués par des maisons de distribution de films qui font ça très bien. Donc, c'est pas la peine qu'on fasse la même chose, je trouve. Et donc, nous, on montre des films qu'on ne verrait pas. La plupart du temps, on ne pourra pas les voir si on les voit pas au festival, voilà. Mais c'est des films qui nous intéressent, c'est des films parce qu'en fait, en Europe, on voit vraiment une toute petite partie des films qui sont produits en Amérique latine, et notamment une partie des films qui sont les plus qui sont les plus accompagnés par les instituts du cinéma, par le ministère de la Culture, par des grosses boîtes de distribution. Donc nous, on donne la parole à des cinéastes qui vont être plus jeunes, plus indépendants, plus sur des circuits plus, je dirais, moins visibles. Et notamment, on va avoir un film, par exemple, qui a été fait par deux réalisatrices syriennes qui sont déplacées dans un camp en Jordanie et deux réalisatrices péruviennes, très jeunes toutes les quatre, qui ont été déplacées à Lima, qui sont aussi dans une espèce de camp à Lima, et qui font un film ensemble sur leur quotidien dans ce déplacement. Et on a essayé de les réunir toutes les quatre, hein, parce qu'elles ne se sont jamais rencontrées. On aura les deux péruviennes, mais on n'a pas réussi à avoir les deux syriennes. On les aura en visio, mais on les aura pas en chair en os.
D'accord, donc c'est quoi? Elles dialoguent en fait, ce qu'elles filment les unes et les autres, dialoguent sur leur rapport à cette question-là de l'exil et de la migration.
Exactement, oui, exactement. Et à leurs conditions, les Syriennes dans le camp de réfugiés en Jordanie et les Péruviennes à Lima, alors que ce sont des Indiennes de la tribu Shipibo, donc ce sont des Indiennes qui viennent plutôt des Andes, et donc elles ont été déplacées à Lima pratiquement de force. Donc voilà, elle parle de ce déplacement et de cette vie qui est toujours en espèce de en flottement, parce que en fait la grosse difficulté aussi des gens qui migrent parce qu'ils y sont forcés. D'abord, ils ont beaucoup plus de mal à imaginer à s'installer ailleurs et à construire une vie ailleurs parce qu'on les a forcés, donc ils ont toujours envie de revenir. Et puis souvent, ce qui se passe aussi, c'est que, dans le cas des exilés, par exemple sur la Colombie, je reviens sur la Colombie, mais ça pourrait être un autre pays, il y a pratiquement 2 millions de Colombiens qui sont exilés, qui ont demandé protection dans des pays européens, mais aussi aux États-Unis et aussi dans un autre pays, au Pérou, je crois, qui n'ont pas eu droit à cette protection parce que, par exemple, en Colombie, il n'y a pas de guerre déclarée. Donc, c'est très difficile d'obtenir un droit d'asile alors qu'il n'y a pas de guerre déclarée. Et donc, en fait, ces Colombiens et d'autres Latino-Américains, mais ça serait le même cas pour des Africains ou pour des gens qui viennent d'autres pays, ils sont en flottement parce qu'ils ne peuvent pas construire de vie, ils sont sans papier, illégaux, et ils sont sans protection. Et la Colombie, c'est aussi un pays où on a un passage au nord de la Colombie quand on va vers le Panama, une zone qui est en espèce de... Oui, c'est de la forêt amazonienne, c'est une zone qu'on appelle le Darién, qui est une zone complètement abandonnée parce que c'est la forêt, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est une zone de passage et ils repartent vers le Panama. Je dis « ils », mais ce ne sont pas que des Latino-Américains, « ils » et « elles ». Il y a aussi des Africains, il y a aussi des gens qui viennent d'Asie, il y a des gens qui viennent du monde entier, qui arrivent en Colombie par des moyens incroyables et qui passent par cette frontière pour rejoindre les États-Unis. À cette frontière du Darién, on a un groupe paramilitaire qui s'appelle le clan du Golfe et qui se charge de faire le passage et donc de faire payer et de... Voilà.
Donc, et alors à ce sujet, il y aura une table ronde justement également sur la Colombie, crise humanitaire migratoire. C'est samedi prochain, donc le 23 mars, à 17h30, toujours au Jean Eustache. Donc on ne peut pas faire toute la programmation, mais il y a en gros 5 films documentaires en compétition et 5 fictions également, plus 5 films hors compétition. Peut-être dire un petit mot, un court mot, Gloria, sur le film d'ouverture qui sera projeté mercredi prochain à 20h15, Perro Bomba.
Oui, tout à fait. Oui, on a une trentaine de films en tout avec les courts-métrages, avec d'autres films. On va avoir 18 invités, 6 jurys, On va décerner 4 prix, dont notamment il y a un prix qui sera décerné par des collégiens et ils viendront décerner le prix et expliquer comment ils ont vécu le fait de faire partie d'un jury. Et donc, on a aussi 5 séances en décentralisé qui seront accompagnées par les invités. Les invités iront à Saint-Médard-en-Jalles, à Blanquefort, à Créon, à Sainte-Foy-la-Grande. Et le film d'ouverture, ce film d'ouverture, c'est Père aux bombes, c'est justement... dans les choses qui sont complètement invisibles de la migration, il y a une migration qui est faite pour aller travailler ailleurs et il y a des pays qui font venir des gens pour travailler. Bon, on connaît tous l'histoire des braceros que les États-Unis ont fait venir du Mexique pendant la Seconde Guerre mondiale pour travailler dans l'industrie de l'armement et aussi pour produire des aliments. Ça continue et le Chili, à un moment, c'était l'époque de la présidente Bachelet, a fait venir des Haïtiens pour travailler dans les mines, pour travailler dans les endroits les plus difficiles, et notamment dans les mines de cuivre. Le Chili est, suivant les années, le premier ou le deuxième producteur de cuivre au monde. Et donc, on a des Haïtiens, de jeunes Haïtiens, des hommes, qui sont allés travailler au Chili. Le Chili est un pays très conservateur. Bien sûr, c'est un pays aussi très... de lutte et de on se souvient donc de 2019 avec les jeunes dans la rue et avec la première ligne, mais c'est aussi un pays très très conservateur et donc un pays très raciste avec sa population mapuche et avec les mapuches et avec les autres populations indigènes qu'il y a au Chili, mais très aussi très raciste avec des populations noires parce qu'il y en a très peu. Et donc c'est l'histoire de jeunes qui sont allés travailler au Chili et de ce qu'ils ont vécu. Et puis on en profite aussi.
Et puis il faudra aller voir le film pour voir la suite. On va devoir s'arrêter là, Gloria. Donc ce sera à 20h15 mercredi prochain. Les 41e rencontres du cinéma latino-américain, c'est du 20 au 26 mars au cinéma Jean Eustache et comme tu le disais dans quelques autres cinémas pour des projections décentralisées. Merci beaucoup Gloria Vergès d'avoir été.
Juste un petit mot. On commence demain avec une séance femme-femme avec Ciné Réseau au Jean Eustache.
Super, merci Gloria, coprésidente de France Amérique Latine 33. Merci beaucoup.
Merci la clé, merci Baptiste.
Amor con la pista, hijo de puta, lo que ponen por el suelo a los artistas. Ser humano putrefacto en mi mente lo que habita. Fumarme una cutica pa' volverme adita. Inyectame 500 micrófonos por los pulmones. Que el sonido de la guitarra se el agua de mis riñones. La música es el calmante pa' cuando yo me encojone. Con estos pendejos que pura mierda que comen. Una nota de composición es que no me limito. Voy a acelerar, no soy Luis Fonsi, pa' irme despacito. Tengo la mente bloqueada porque la sobrepasé de melodía. Tú sobrepasas la tuya de perico. Fucking vengo narcisita que padecen de perfidia. Su despensa siempre está llena porque comen pura envidia. Yo no estoy fría con nadie ni a temperatura tibia. Porque yo no lampo pa' que me den un lado en la silla. Juego con su puta mente como si fuera de un niño. Si me da la gana cojo el mundo y lo echo en un bolsillo. Más cara de soldadura porque te cega mi brillo. Corto tu rima en el aire, tengo no tengo freno, voy a acelerar y es contraria a la vía. Siempre llevo la contraria porque soy la dueña el guía. Frena pa' que veas cómo te quito la anomalía. La fucking tuya por si acaso me mienta la mía. Y yo no mancho mi nombre por un dollo. Que si soy la más real de mi coro, claro que es obvio. Cero femenina en mi coro, es que me celan con el novio. Puso un nuevo recipe de viaje pa'l purgatorio. Y soy tranquila, pero más fuerte que un trago de tequila. Yo no cojo cuerda, a mí nadie me va a asar a la vida. Calcula cero más cero, eso me da lo que tú digas. No amenazo, te lecciono de la forma más pasiva. Y es mentira, la bacanería. día no es para recostarse. Si yo te di el dedo, coge el dedo, pero no te pase. Y no te pase de contento cuando tú te des tu pase. No puede ser que el infierno se vuelva tu último pase. Anota la bota con red de esta loca, con cada polline yo le callo la boca. Rime de sabría, parecen tallotas, son niños de teta que comen compota. Yo soy persistente, rápido y frecuente, le supo lo cuente, pero soy demente cuando me parece. Utilizo la mente, demasiado muro y soy poquito fuente. Tengo el don de ver la admiración, aguante la presión, agua para el calentón, contra la conmoción, le doy su golofón, es que esta es mi pasión. Yeah, si te miro te pongo a temblar y te lastima. Tengo un bajo acima, no se va de encima. Vivo en la tarima que tengo en la mente, no pegan un digo mientras yo te vi. No me callo, no ensayo, mis rimas son rayos. Te traigo y te pongo a hacer el pari al diablo con Pablo, que son apellido era Escobar. No fallo y si fallo fue porque era un sueño. Son clientes fijos en la casa de empeño, pila de cartieres, pero no son dueños. Quieren te mentir, me poseen, lo sé yo. Yay, rompían de rock y ahora quiero otra sesión. Pero con Bizarrap, el latino sienta la presión. Pienso en grande, ya quiero un masivo en altos de chabón. Con los fanáticos de calle 13 pa' que sea soldón. Yo no tengo nada, fronteo con talento, es lo que me sale. Pilas de diquera me llamaron que querían filmarme. Con el talento se nace y yo no tengo que pegarme. Pa' hacerte saber que ni con capela pueden llegarme. Jay Noah, Jay Noah, Jay Noah. La fucking hija de rap.
Chocolat blanc.